Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
L'insécurité grandissante, les grèves qui se multiplient à travers le pays, le processus de révision constitutionnelle relancé, le décès du comédien Michel Sangaré, le forum de la presse se penche sur ces différents sujets ce soir avec comme invité Lanfia Sinaba de l'éveilinfo.net, Badou Escoba du Carrefour, Boubacar Païtao du journal Aujourd'hui et Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
À vous, Bandjougou Danté. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la situation sécuritaire du pays, y a-t-il un endroit au Mali où le citoyen peut se sentir en sécurité?
Je pense que dans notre pays aujourd'hui, la question sécuritaire est devenue une question inquiétante. Inquiétante parce que nous assistons à une banalisation de la mort. Et également à une hantise de l'insécurité. On se demande véritablement qui est épargné, qu'est-ce qui va se passer, et des choses qui hier étaient considérées comme extraordinaires se passent aujourd'hui quotidiennement, et on a souvent le sentiment que ça ne choque plus les gens.
Badou Escoba, est-ce que l'on se sent en sécurité même à Bamako?
Non, on ne se sent en sécurité nulle part. Je pense que la sécurité est devenue une question de préoccupation nationale. Et je crois que tout le monde doit s'investir pour que la tendance s'inverse, parce que ce qui se passe actuellement au Mali ne ressemble pas au Mali. Le Mali, dans le temps, ne connaissait pas ce genre de crime. Effectivement, comme l'a dit mon confrère, les crimes sont devenus des phénomènes ordinaires. Cela est inacceptable.
Lanfia Sinaba, attaques, enlèvements, assassinats se multiplient partout.
C'est regrettable. Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un que le pays est en train de sombrer. La personne m'a fait savoir que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes à Bamako qu'on le dit. Sinon, depuis un moment, le pays est en train de sombrer. C'est regrettable. Je pense qu'il n'est pas encore tard. Nos autorités peuvent se ressaisir parce qu'aujourd'hui, peut-être on va aborder ce volet. L'opinion pense qu'elle n'est pas... Les autorités ne jouent pas le rôle qu'elles devaient jouer. Au sein de l'opinion, on a ce sentiment qu'on n'est pas sécurisé par ceux-là qui sont censés assurer notre sécurité. Et c'est vraiment quelque chose de très, très inquiétant dans un pays comme le nôtre, dans la mesure où, quand on continue comme ça, les gens auront tendance à se rendre justice. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, même si ça n'a pas atteint un certain niveau. Il y en a même qui vont jusqu'à, par rapport aux tueries, à l'application de la charia. Il y a même un mouvement qui est en vue, en gestation, dans ce sens-là, pour l'application de la charia. Je pense que dans un pays laïque, un pays démocratique comme le nôtre, aller vers l'application de la charia, ça peut aussi aboutir à d'autres situations qui ne sont pas de nature à nous réconforter dans notre situation actuelle. Donc je pense que le gros du problème, c'est vrai, on va dire qu'il faut une sensibilisation, une implication de la part des soucis, de la société civile, de la population, mais je pense que le gros du problème appartient au gouvernement. Sinon, ça ne va pas, il faut le dire, il ne faut pas se leurrer. Ça ne sert à rien d'essayer de contourner le problème en disant qu'il y a de l'insécurité sur nulle part. C'est un débat que je trouve, une déclaration, une position que je trouve démagogique. C'est vrai, l'insécurité zéro, ça n'existe nulle part, mais notre cas aujourd'hui mérite qu'on aborde réellement la question, la réflexion autour du sujet.
Vous dites qu'un mouvement qui prônerait l'application de la charia, est-ce que ce sujet passe inaperçu, et quel est ce mouvement?
Quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a même demain un mouvement qui, le nom... Là, on parle de la restauration. Il y a ce mouvement, concept de restauration de l'application de la charia. Mais demain, il y a un mouvement une rencontre qui doit se tenir. J'ai aussi lu ça sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, là où on fait appel à des musulmans pour se retrouver demain au Palais de la Culture. Je n'ai pas là encore la version officielle des organisateurs. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres initiatives allant dans ce sens-là. Et même au-delà, quand on interroge l'opinion, beaucoup de gens sont favorables à cela. Quelque part, ça prouve un véritable malaise, un véritable problème d'organisation, un véritable problème de sécurisation, de sécurité des populations.
Ouakar Payitaho, l'Anfiancé Naba demande aux autorités de se ressaisir. Est-ce que la situation échappe aux dirigeants du pays?
Bon, en abordant la question de l'insécurité, souvent on est tenté de dire qu'on va de mal à pire. Et effectivement, on n'a pas tort, mais en abordant le problème sous cet angle-là. L'insécurité est en train d'échapper aux autorités. Je crois qu'on n'a pas besoin de tergiverser là-dessus parce que si on se rappelle en 2012, on ne parlait que du Nord, hein, mais maintenant on a tendance à oublier même le Nord parce que le Centre et le Sud deviennent plus publics que le Nord. Donc maintenant la situation va de mal en pire. Donc maintenant, je voudrais juste dire à l'AFIA que le rassemblement qui est prévu demain, ça n'a rien à voir avec l'application de la charia. C'est juste, c'est-à-dire que des musulmans qui ont jugé nécessaire, compte tenu de l'insécurité, c'est-à-dire grandissante, qui ont jugé nécessaire avec l'assassinat de l'imam juste la semaine passée, paix à son âme. Maintenant, ils ont jugé nécessaire de se rencontrer pour au moins, apporter leur contribution par rapport à la question sécuritaire. Je crois que ça n'a rien à voir avec l'application de la charia.
Si vous permettez d'ajouter un complément d'information, parce que l'information qui a circulé, il y a deux versions. Il y a la version arabe et il y a la version française. Je pense que lui, il s'est focalisé sur la version française. Et quand on a fait la traduction, on s'est rendu compte que ça englobe les deux volets.
Et il y a une vidéo également qui circule sur les réseaux sociaux où il y a des prêcheurs qui sont en train de dire que s'il s'avère que l'imam aurait été tué par des homosexuels, que les gens devraient se soulever contre eux.
C'est des vidéos. Je dis le rassemblement qui est prévu. C'est dans le cadre de notre débat. Mm-hmm. Je crois que le rassemblement qui est prévu pour demain mm-hmm. n'a rien à voir avec faire l'apologie de l'application de la charia. Mm-hmm. Donc, je rejoins mon confrère, le président, qui dit qu'on a tendance à banaliser. Parce que aujourd'hui, des gens se prennent à visage découvert de faire l'apologie du crime et rien. On ne fait rien, absolument rien. Quand on dit que ça échappe aux autorités, parce qu'on a l'impression que, c'est-à-dire que l'État, c'est-à-dire que incarné par c'est-à-dire que les ministres, les forces de sécurité, tout, on a l'impression que l'État a peur des citoyens. Parce qu'on ne peut pas se permettre, sur les réseaux sociaux ou sur la place publique, de faire l'apologie du crime. Normalement, ce dernier doit être interpellé, c'est-à-dire qu'il servira d'exemple pour les autres. Mais si on laisse les gens faire, on a l'impression qu'on est dans un état où tout est permis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la voix, on peut dire tout ce qu'on veut et rien ne s'y passe. Maintenant, on assiste à des situations comme ça. Voilà.
Les gens avaient peur avant, il y a quelques années, de partir à Kidal, pensant que Bamako était plus sécurisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas plus d'insécurité à Bamako qu'à Kidal?
Bon, en réalité, j'aimerais un petit peu dire quelque chose par rapport à ce que l'Afia a dit. L'appel à l'instauration de la peine de mort n'est pas la charia. Les gens souhaitent que la peine de mort soit désormais appliquée, mais ils n'ont pas fait appel à l'application de la charia. Sinon,
c'est l'islam qui demande.
Non, que ce soit la loi occidentale ou la loi musulmane, la peine de mort peut être appliquée, n'est-ce pas, par les deux lois. Donc je pense que ceux qui sont.
C'est les religieux qui demandent, c'est dans ce sens que.
Non.
Parce qu'on a cette tendance.
Ils n'ont pas dit la charia, ils ont dit d'appliquer la peine de mort. Et la peine de mort existe dans les pays qui n'appliquent pas la charia. N'est-ce pas? Donc je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre charia et peine de mort, quand bien même que la peine de mort se trouve dans la charia.
Justement, c'est ce que je voulais dire.
Ce que je voudrais vous dire, en toute honnêteté, depuis un certain temps, les gens ne parlent plus de Kidal, ça veut dire que là-bas c'est tranquille. Ici, les gens dans leur maison, parfois, même quand tu es seul chez toi, en train de te promener, tellement que nous avons été traumatisés par les multiples facettes de la mort qu'on nous a montrées, poignardées, enlevées, fusillées. Hein, mais on se demande, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis protégé? Que peut-il se passer? Donc honnêtement, c'est une nouvelle forme de traumatisme ou de terrorisme mental que tout le monde est en train de subir. Et les gens se demandent véritablement qu'est-ce qui peut m'arriver. Et là, c'est dangereux. Donc je pense que vous avez fait référence à Kidal. En tout cas, dans l'actualité, on n'entend pas ce qui se passe là-bas. On ne sait même pas parfois ce qui se passe là-bas. Mais si des choses se passaient là-bas, on l'aurait dit. Mais aujourd'hui, quand même, de Kidal à Kai, les gens ont peur. Et les gens vivent en permanence avec l'idée de la mort, de l'attaque, de l'enlèvement. Et quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau de responsabilité, et quel que soit le quartier que vous habitez, parce que ce ne sont plus des zones éloignées, mais même dans les centres urbains, les gens sont attaqués. Hier soir à Rimadio, une personne a été assassinée chez lui pratiquement en début de soirée. C'est incroyable, et impensable, même inadmissible.
Badou Escoba, et en parlant également d'Agelhok, il y a 7 ans, il y a eu un massacre là-bas. Il y a quelques jours, il y a eu 10 casques bleus également qui ont été tués dans cette zone encore.
Bon, moi, je pense que tuer 10 casques bleus à Agelhok, c'est une tragédie. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Je pense que c'est une réponse à la visite du président tchadien en Israël et une autre réponse à la visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Tchad. Donc, c'est en réponse à cela que Acmi, en complicité avec le groupe terroriste de Yad Agari, ont mené cette action d'envergure.
Mais pourquoi des visites qui ne se sont pas déroulées au Mali, c'est l'attaque?
Non, parce que tout simplement, le contingent tchadien se trouve actuellement en opération au Mali. Et vous vous souvenez qu'en 2013, les Tchadiens ont fait un travail extraordinaire dans le Tegargar, parce que les soldats tchadiens ont éliminé quand même Abu Zahid. Donc, cela a créé un sentiment de haine et de frustration chez les terroristes. Donc, ils ont profité de cet acte de ce rapprochement entre le Tchad et l'État hébreu pour commettre ce forfait. Et je pense que je me demande si toutefois ils vont en commettre encore, parce que lorsqu'ils ont commis l'acte, les forces de l'aménagement ont vaillamment réagi. Certains criminels ont été arrêtés, d'autres ont été pourchassés. Et je pense que prochainement, toutes les dispositions seront prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Parce que vous savez, les terroristes, c'est des lâches. Et ils ne sont plus en mesure d'affronter frontalement les forces internationales, les forces armées maliennes. Donc, leur mode opératoire, c'est le système kamikaze.
Est-ce des lâches ou utilisent-ils une stratégie que l'armée malienne, les autorités maliennes n'arrivent pas à contourner?
Non, l'armée malienne s'adapte de plus en plus au contexte de guerre asymétrique. Je vous le répète encore, ils ne sont plus en mesure d'affronter frontalement et l'armée malienne et les forces internationales. Donc, ils sont obligés de passer par le système kamikaze. Sinon, s'ils avaient la possibilité d'affronter directement l'armée malienne ou les forces internationales, ils allaient le faire. Vous vous souvenez que l'autre jour, à Toy, dans la commune de Matomo, 13 terroristes ont été abattus par un détachement de l'armée malienne. Ils ont cru pouvoir surprendre ce détachement, mais ce détachement les attendait de pied ferme et le bilan est de 13 morts du côté des terroristes. Donc, pour dire que les terroristes sont en train d'être affaiblis, et je pense qu'ils sont en train de faire ce qu'on peut appeler le dernier geste du mourant.
D'accord. Est-ce votre avis, Boubacar Panitaou?
Non, je ne suis pas du tout de cet avis, parce que, disons que si les contextes changent, les méthodes changent, les stratégies changent, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Sinon, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de capacité de nuisance. Et aujourd'hui, pour en venir au cas d'Agelhok, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui, personne n'a intérêt à perpétuer la crise, parce qu'aujourd'hui on a envie d'en finir rapidement avec ça, d'instaurer la stabilité que chacun rentre chez lui. Mais si on a parce que souvent on a l'impression que on est dans un dans une guerre ou encore dans un chemin où les gens en fait n'ont pas le même agenda. C'est-à-dire le gouvernement et les Maliens ont un agenda, les partenaires ont un agenda. Maintenant, il faudrait que c'est l'agenda, c'est-à-dire que le plus plausible pour moi, c'est qu'on aille rapidement à la résolution définitive de ce conflit, parce que combattre l'insécurité jusqu'à un certain niveau et dire que voilà, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire qu'on s'arrête à ce niveau, il faut maintenant entamer d'autres processus, alors que c'est-à-dire qu'il y a encore des poches de résistance dans cette partie, tout le monde le sait. Bon, parce que compte tenu de l'évolution de la situation, maintenant les terroristes aussi en face ont changé de stratégie. C'est comme ça que moi je vois les choses. Non, c'est pas parce que ils ont été affaiblis, c'est pas parce que c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de force. Non. C'est-à-dire qu'ils ont changé de stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Parce que aujourd'hui aussi ils sont dans la logique, c'est-à-dire que le conflit s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que dans l'alignement. Maintenant eux aussi ils vont inscrire leur action dans l'alignement. C'est comme ça que moi je vois les choses.
Lamfia Sinaba, la question principale qui se pose aujourd'hui quand on voit l'évolution de cette situation sécuritaire, c'est qu'est-ce qui se passe au Mali?
difficile de répondre à ce qui se passe au Mali. Parce que on peut dire que le Mali, les Maliens souffrent. Ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de souffrir autant? Je pense que c'est une question qui mérite plusieurs. Dont la réponse mérite plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a toute une économie aussi qui est développée autour de cette crise-là, au-delà de tout ce qu'on peut appeler narcotrafiquants, narcoterroristes. Au-delà de tout ça, il y a une véritable économie aussi qui se développe autour de tout cela. Donc, à mon avis, tous ces aspects font qu'aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation très difficile. Très, très, très difficile. Tel point qu'on se demande, souvent, si on veut tomber dans le fatalisme, on se dit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour vivre tout cela, pour être victime de toutes ces situations-là.
D'accord. Banjougou Danté, avez-vous une idée des causes?
Bon, honnêtement, moi, je retiens trois. Je retiens la pauvreté, qui est une cause essentielle. Et la seconde cause que l'on peut retenir par rapport à cette situation, c'est l'injustice. Et la troisième cause que nous pouvons dégager par rapport à la question de l'insécurité, c'est également le refus d'aborder la question des fonds. Nous refusons il y a certains débats, on ne peut plus faire économie de certains débats. Et je crois que si nous arrivons à lutter efficacement contre la pauvreté en donnant du travail aux jeunes, les gens éviteraient de se faire tuer ou d'aller tuer gratuitement. La seconde cause que j'ai évoquée ici, qui est l'injustice, les gens ne croient plus en la justice. Les gens ne pensent plus que l'État peut créer les conditions permettant de rendre justice. Et c'est ce qui explique parfois des réactions souvent bizarre. Et la troisième cause que nous avons évoquée, c'est que les débats contradictoires, les questions de fond sont occultées au profit d'une certaine hypocrisie et on assiste plus à l'information qu'à la communication. Quand il y a des questions essentielles au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile, les gens ne discutent pas des questions de fond. Et il y a des sujets qui sont considérés comme étant des sujets tabous. Si jamais on laissait la parole libre, je pense qu'on peut arriver à des conclusions satisfaisantes. Mais malheureusement, dans ce pays-là, les gens refusent d'aborder les questions de fond.
Qui sont, par exemple ?
Par exemple, quand il y a des gens qui se permettent de commettre des actes crapuleux, et au moment où on doit dire voilà les raisons, voilà pourquoi l'enquête disparaît, on ne sait même pas comment ça s'est passé. Il y a des interventions par-ci par-là, on bloque tout. Et les gens continuent à vivre avec des situations de conflictuelles en permanence et on arrive à étouffer les poussins dans l'œuf. Or, en réalité, comme on le dit dans notre jargon, il y a des questions essentielles à aborder. Autre chose, aujourd'hui, la question de l'homosexualité est une question que l'on est en train de culter. Notre pays nous appartient. Il y a des pays dans lesquels on n'en parle pas. Ça ne va pas avec nos cultures, ça ne va pas avec notre religion. Pourquoi ne pas dire noir et sur blanc, ça ne se pratiquera pas chez nous et quand c'est pratiqué, c'est sanctionné. Donc je pense que ça mettra fin à des tergiversations, à des questions des droits de l'homme. Mais quand les autorités amènent des programmes ou essayent d'encourager des ONG qui interviennent dans ce domaine-là, ça ne peut pas aller. D'accord. Donc que nous disions clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas.
D'accord.
Et maintenant, si c'est des lois qui sont élaborées, adoptées dans ce sens-là, qui va s'appliquer à tous, moi je pense que ça devient très clair pour tout le monde.
Mais c'est pas aussi facilité ça.
Ah, comment? J'ai dit notre pays nous a pas. Allez-y en Arabie Saoudite, qui va oser parler de ça?
Je dirais tout simplement que l'homosexualité est contraire à nos valeurs. Donc c'est un sujet tabou. Il faut même pas qu'on en parle. Par rapport à l'insécurité dont vous parlez, mon confrère a dit que l'insécurité s'est déplacée du nord vers le centre, ensuite vers le sud. Mais par rapport au problème particulier du centre, qu'est-ce qui a aggraver l'insécurité, c'est la question des milices. Il faut en parler. Qui est derrière ces milices? Qui a armé ces milices? Des milices qui possèdent des armes de guerre. Quand on se réfère à ce qui s'est passé à Nawoji, à Danfagala, à Koumaga, à Kologon, on se rend compte tout de suite que ces deux chasseurs sont lourdement armés, sinon mieux armés que l'armée régulière. Cela est inacceptable. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un état de droit, dans un pays normal, il ne saurait y avoir de milices. Je crois que c'est à l'armée d'assurer la sécurité des personnes et les biens. Et la sécurité des personnes et biens est un rôle régalien qui revient à l'État. Donc c'est à l'État de s'assumer pour trouver une solution à ces problèmes.
Et qui arme ces milices?
Mais la question mérite de poser parce que ces milices sont en possession de véritables armes de guerre. La question, lors de la conférence de presse du Haut Conseil de la société civile, Maître Hassan Bari, qui était le représentant de Tabitab pour la Cour, est revenu là-dessus pour dire que les chefs des milices sont attaqués en grande pompe par le président de la République et par le premier ministre Soumaïla Boumé. Donc, même s'ils ne sont pas directement impliqués, il y a quelque part anguille sous roche. Donc, il faut impérativement trouver une solution à cela. C'est le problème des milices qui entrent. Avant-hier seulement, dans une localité d'Ogon, un imam a été tué, une autre personne a été égorgée, des greniers ont été incendiés. Je crois que nous allons de... Les mots me manquent pour qualifier ce qui est en train de... Nous allons de crise en crise et cela est extrêmement grave. Donc, ça veut dire que l'État est de plus en plus défaillant. Parce que quand vous suivez l'actualité devant les députés, le Premier ministre dit que nous allons envoyer prochainement 3 000 hommes, nous allons envoyer 4 000 hommes. Moi, je pense que cela n'est pas suffisant. Il faut trouver une autre formule. Il faut associer l'ensemble des forces vives de la nation, que ce soit les recontrats, que ce soit les dignitaires religieux, que ce soit le Haut Conseil de la société civile, pour qu'on puisse mettre un terme à cette crise. Parce que la crise est en train de se déplacer un tout petit peu vers le sud et c'est très très inquiétant.
L'Anfia, vous pensez que ce n'est pas si facile que ça?
Oui, c'est ce que je disais. C'est vrai, il y a le côté de la pauvreté, mais au-delà aussi, il y a le fait que les lobbies gays là, ont toutes ces pressions-là. Mon récent ouvrage parle de cela. C'est ce qui s'est passé à Ségou, c'est pratiquement l'introduction de mon récent ouvrage. Donc c'est pour dire que je suis d'accord avec lui. Hein. Je ne suis pas là pour faire... Il faut que cela soit clair. Hein. La promotion de l'homosexualité. Non, je l'ai dit dans le livre, je ne les attaque pas, mais je ne fais non plus la promotion. Mais je posais le débat. Peut-être on va dire que je fais de l'autopromotion ici. Sinon...
Mais c'est est-ce que lutter contre la pauvreté, l'injustice et débattre de toutes les questions de fond va lutter contre l'insécurité dans le pays?
Ça ne doit pas nous empêcher de parler. Non, il a, dans le débat, il a évoqué un sujet de passage par rapport à ça. Bon, comme l'ouvrage parle de ça, ça a suscité un certain...
On va revenir sur l'insécurité. Il propose de lutter contre la pauvreté, l'injustice et de débattre de toutes les questions, surtout les questions de fond.
Non, je pense c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aucune question ne soit occulte et qu'on ait le courage de poser le problème tel qu'il se pose.
Il se présente
et de proposer d'apporter des solutions concrètes. Mais là aussi, il faudrait qu'on ait les moyens aussi pour pouvoir mettre en œuvre les propositions que nous allons faire, les propositions de solutions pour leur mise en œuvre. C'est pour cela que la question de moyens est fondamentale à mon avis. Mais au-delà, il faudrait aussi qu'il y ait cette prise de conscience. Je le dis, cette prise de conscience, elle doit être réelle. Une prise de conscience réelle des enjeux réels de développement. Et cette prise de conscience, elle doit se faire et au niveau des autorités et au niveau de la population. Malheureusement, il y a souvent cette inadéquation entre les deux. Quand il y a cette prise de conscience d'un côté, de l'autre côté, on sent un certain chevauchement. Je pense que c'est l'un des gros problèmes. Et ça va, à mon avis, au-delà du simple cas du Mali. Ça doit être un problème au niveau africain.
Pintao, que faire maintenant?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'AFIA. Oui. Ça n'a rien à voir avec les questions de moyens. Ça n'a rien à voir avec les questions de moyens. C'est juste des questions de volonté. Avec les questions de volonté, il faudrait que les forces en présence acceptent de s'asseoir et de discuter. Dire à la face du monde, voilà ce que nous voulons que notre Mali soit. Point barre. Mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué parce que la FIA, souvent le gouvernement,
c'est notre référence là-dessus.
Souvent, je dis que le gouvernement qui est notre référence. Je prends juste un exemple. L'assassinat de l'imam Yata Barré, paix à son âme. Le communiqué qu'on a attribué au ministère de la sécurité, qui parle d'assassinat du fils de l'imam Yata Barré. C'est-à-dire que dans le communiqué, on sent déjà qu'il y a l'intention d'atténuer, en fait, c'est-à-dire que la question. C'est vrai que son père était imam, mais lui-même, il est imam. Mais pourquoi faire référence à son père qui est décédé en 93, il y a 26 ans? C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'atténuer pour dire que non, c'est pas l'imam, c'est le fils de l'imam. Parce qu'en disant que c'est l'imam qui a été assassiné, imaginez un peu, c'est-à-dire que la portée. Mais si c'est le fils de l'imam, on a tendance à négliger, non, comme c'est le fils de l'imam.
Oui, non. Un moyen oui, également non, de stabiliser, d'empêcher.
Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'imam. C'est l'imam qui a été assassiné. Le père dont on fait allusion est décédé en 93, il y a 26 ans. Certainement celui-là même qui a rédigé le communiqué, c'est-à-dire que n'était pas ici. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Si on veut aujourd'hui, c'est-à-dire dans les coulisses, si on est avec nos partenaires, ils disent que nous, on ne sait pas ce que vous voulez. Ça, c'est vrai. Personne ne connaît la position du Mali par rapport à la gestion de la crise. C'est-à-dire que la crise de façon globale. Maintenant, la crise depuis 2012, maintenant, les antécédents, c'est-à-dire que les ramifications, ça, c'est l'insécurité dont nous vivons. Et aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. C'est-à-dire qu'en 2012, juste après le coup d'État, c'est-à-dire que tout le monde avait peur, les braquages à main armée, c'est-à-dire qu'a considérablement diminué. Parce que même les voleurs en ce moment avaient peur. Parce que juste pour te dire que l'État doit s'assumer. C'est l'État qui doit s'assumer.
D'accord.
Voilà. Si vous permettez, juste un seul mot par rapport au moins. Et je vais en terminer. Dans nos États, ce qui est dramatique, que ce soit au Mali ou ailleurs en Afrique, quand on parle de développement encore, on parle de la déclaration de Paris. Une déclaration relative à l'efficacité de l'aide au développement. C'est là où j'insiste beaucoup sur la question liée aux moyens. Il n'est pas dit que tout doit être lié à ça, mais il y a souvent des volontés politiques qui sont là, qui sont affichées. Mais lorsqu'on veut le mettre en œuvre, il y a des questions de moyens qui se posent.
L'argent.
Jusqu'à ce qu'on va faire des chantages, entre guillemets. C'est là où j'ai dit qu'il nous appartient, nous, Maliens, nous, Africains, de nous donner les moyens qu'il faut pour notre propre développement.
Mais
il n'a pas compté, par exemple,
pour l'aide au développement. Je crois que là, on n'a pas besoin
de... Okay. Mon frère Lamfia comprend quelque chose. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, pluriel et ouvert, tout cesse. Nous ne pouvons pas continuer avec cette hypocrisie-là. Si dans les années 90, 91, 92, on pouvait continuer à tromper l'Occident en disant que nous sommes un pays démocratique, nous sommes ouverts, nous faisons la promotion de ceci, cela, aujourd'hui, ce n'est plus possible, tout cesse. C'est à nous de définir les développements que nous voulons pour nous. Manger bien, se soigner. Maintenant, l'argent, là, c'est un matériel. Maintenant, question de moyens, mais en réalité, il faut que nous nous affirmons, nous sommes ceci, nous voulons que nous soyons comme ça, nous acceptons ça, nous n'acceptons pas ça. Ça, ce n'est pas un problème de moyens, ça, c'est notre identité et notre dignité.
D'accord, abordons maintenant.
C'est ce que nous voulons pour nous-mêmes. Maintenant, si on veut continuer à se développer comme l'autre le veut tout en prétendant avoir son argent, il va nous poser des conditions. Mais sous ces conditions-là,
il faut se défaire de cette aide-là. Voilà.
Et si ça continue à
remettre en cause notre existence. On va aborder le second sujet de ce débat qui est les grèves des enseignants et les grèves également des cheminots. Badou Escobar.
Bon, je vais parler spécifiquement du cas de la grève des cheminots. C'est quelque chose qui est en train de nous sidérer tous. Des gens qui ont loyalement servi l'État, des aiguilleurs qui ont risqué leur peau, que l'État refuse de les payer. Vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce qu'il y a eu un accord entre le Sénégal et le Mali. C'est Mamadou Diatta qui l'a dit. Et le Sénégal et le Mali ensemble ont accepté, n'est-ce pas, de payer ces cheminots. Le Sénégal a rempli sa part du contrat, le Mali non. Et les cheminots ont entamé une grève de la faim depuis combien de mois. Et l'État ne se soucie pas du tout d'eux. Et c'est quelque chose que nous déplorons parce que si un vagabond de la CEMA tire une balle en l'air, tout de suite l'État grelotte, l'État tremble. Donc il faut que l'État soit équitable entre tous les citoyens. Il faut que les cheminots soient mis dans leurs droits. Et récemment, j'ai appris que l'État a accepté de verser 2 mois de salaire au niveau des banques. Mais les cheminots ont dit que si l'État injecte 2 mois de salaire dans les banques pour eux, et ils n'auront plus rien parce que l'État et les banques vont couper leur crédit parce que les banques n'ont pas pitié. Pour rebondir sur la question spécifique de la grève, entre 2015 et 2019, il y a eu 299 préavis de grève. Et l'État n'a pas du tout bougé le petit doigt. C'est à la dernière minute que l'État voulait réagir. La dernière fois, l'INTM est allé en grève. Avant la grève de l'INTM, au lieu que le Premier ministre rencontre l'ensemble des acteurs des centrales syndicales, il a voulu mettre à dos l'INTM d'abord en dressant Kefi Kanté contre Yacouba Katilé. Et là, Yacouba Katilé, mais ça a mal tourné parce que la grève a été largement suivie. Moi, je pense que si réellement l'État veut trouver une solution à ce problème, il ne faut pas déplacer le débat. Il ne faut pas amener le débat sur le plan politique. C'est une lutte syndicale. Une lutte syndicale, quand il y a des négociations, les négociations, c'est entre l'État, les employés et les travailleurs. Et je crois que l'UNTM va saisir prochainement le Bureau international du travail pour mettre en garde le gouvernement, pour dire au gouvernement que quand il y a une lutte syndicale, c'est une lutte syndicale, il ne faut pas déplacer le débat. La lutte syndicale n'a rien à voir avec le débat politique. Voilà.
Parlons de la grève des enseignants également. Que vont devenir les élèves aujourd'hui?
Ah, c'est ça le plus inquiétant. L'autre aussi inquiétant, l'autre sujet. Mais je pense qu'avec les enseignants, c'est encore plus inquiétant parce que c'est l'avenir. On est en train de jouer avec l'avenir de ce pays. Il faut faire tout pour mettre les enseignants dans les conditions. C'est vrai, il y a certaines revendications où l'État va dire que il n'a pas les moyens. Moi, je pense que même s'il n'y a pas les moyens, on peut les contenter d'une manière ou d'une autre. Mais de là aller en grève de cette manière-là, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. On ne doit pas s'amuser avec l'éducation. Surtout que l'argent, comme Badou l'a dit, ça va souvent dans des circuits là où ça aurait pu aller ailleurs, dans d'autres canaux, encore.
Et cela relève de qui cette responsabilité?
Mais de l'autorité, de l'État. Moi, ils ne vont pas s'en cacher de le dire. C'est à l'OTA.
D'accord. Paytao, qu'est-ce qui explique toutes ces grèves?
Bon, ce qui explique ces grèves, c'est aussi simple que ça. C'est qu'on est dans un pays où les autorités sont spécialisées dans le fait de déplacer les problèmes. Et le Mali aujourd'hui, le gouvernement malien détient le record. Parce que c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on lutte pour avoir des droits. Et on lutte pour obtenir l'application de ces droits. Et c'est ce qui est très grave. C'est-à-dire que si le citoyen ne fait plus confiance à l'État, c'est très grave. C'est seulement le manque de confiance. Parce que quand je vois le premier préavis des enseignants, ils sont partis, ils ont été convoqués, c'est-à-dire que dans la commission de négociation, c'est dans la salle, ils ont demandé l'arrêté de conciliation. Parce que c'est un arrêté du ministre en charge du dialogue social qui convoque, c'est-à-dire que la commission de conciliation, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, la commission de négociation. Parce que si c'est un arrêté qui convoque la commission, tous les engagements pris lors des discussions, le gouvernement est tenu de les appliquer. Maintenant, si jamais vous faites les discussions sans l'arrêté de conciliation, c'est comme si vous êtes en train de faire une discussion informelle. Maintenant, c'est dans la salle que les partenaires sociaux ont demandé l'arrêté. Ce que le ministre trouve à dire, c'est que l'arrêté est encore en cours de signature. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est mettre les gens devant le fait accompli. C'est en fait l'avenir du pays. C'est pas le problème du gouvernement. Le gouvernement, c'est de déplacer les problèmes, de jouer un peu, c'est-à-dire que pour gagner un peu de temps. Sinon, moi, je peux pas comprendre. C'est inadmissible. Aujourd'hui, les syndicats ont été appelés pour une discussion. Il y a deux points de désaccord qui m'ont beaucoup, c'est-à-dire qui ont retenu mon intention, c'est que, en un moment, le ministre en charge de la décentralisation, c'est-à-dire qu'a attribué la direction nationale de la fonction publique et de la collectivité au ministre en charge du travail et de la fonction publique. Et c'est ce qui est en violation, c'est-à-dire que de la loi qui crée même la fonction publique et la collectivité. Parce que la loi qui crée la fonction publique et la collectivité est très claire. Cette loi dit que la direction nationale de la fonction publique prépare les textes pour le ministre en charge de la décentralisation. Donc ça veut dire qu'en aucun moment, on ne peut pas attribuer cette direction, c'est-à-dire qu'à un autre département, logiquement. Maintenant, les syndicats ont demandé, c'est-à-dire que une gestion, je crois, c'est un recours gracieux au niveau du président de la République, mais qui aujourd'hui, ça fait 3 mois, c'est-à-dire que rien n'a bougé par rapport à ça. Mais est-ce que les anciens ont besoin d'aller, c'est-à-dire en grève pour ça? Parce que le ministre estime que lui, il doit mettre en place, c'est-à-dire qu'il doit mettre en œuvre l'accord, il doit organiser les élections, il doit faire ceci, il doit faire cela. Il ne peut pas gérer les fonctionnaires de la collectivité. S'il ne peut pas gérer les fonctionnaires de la collectivité, il peut démissionner. C'est ça. Le Mali, ça fait 18 millions d'habitants. Non, le Mali, ça fait 18 millions d'habitants. Si lui, il ne peut pas faire ça, il peut faire tout ça, alors que ça fait partie de ses prérogatives. Maintenant, il peut rendre le tablier, quelqu'un d'autre viendra le faire à sa place. Mais torpiller les textes, c'est-à-dire que violer les textes, attribuer cette direction, c'est-à-dire la gestion des fonctionnaires des collectivités au ministère, c'est-à-dire en charge, qui viole, c'est-à-dire toute la procédure.
D'accord. Banéou Danté, les autorités pourraient-elles faire face à cette situation qui devient de plus en plus compliquée?
Elles sont obligées d'y faire face. Elles sont obligées d'y faire face. Moi, je pense que vous étiez en train de parler de causes de ces situations-là. Moi, je n'ai pas à juger si les autorités doivent faire face à ça, mais je sais quand même qu'elles sont obligées de faire face à ces situations qui sont des tensions sociales assez importantes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a deux choses, à mon avis, qui peuvent expliquer ce comportement, ce radicalisme dans les secteurs sociaux. Il y a le profil de ceux qui sont chargés de la gestion des questions sociales, d'une part, et d'autre part, il y a l'arrogance de ces mêmes nommés-là. Le profil, c'est par rapport à quoi? Ils prennent parfois des gens qui ne connaissent même pas, ça rejoint ce que mon frère a dit, qui ne connaissent même pas les attributs de leur ministère. On a vu des chômeurs ministres. Donc, en réalité, quand on ne connaît pas un domaine et qu'on est censé être l'interlocuteur du gouvernement avec ces groupes sociaux, c'est le désordre. Malheureusement, même par rapport à la nomination des conseils techniques, les gens ne sont pas nommés par rapport à des critères de compétence ou de connaissance de telle ou telle chose. Il y a des postes politiques, il y a des postes techniques. Mais malheureusement, n'importe qui devient n'importe quoi et n'importe comment. C'est ce qui amène ces problèmes-là. L'arrogance, c'est quoi? S'il y a une situation, un ministre, avant tout, est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale. Quand dans ton domaine, ça ne va pas, qu'est-ce qui empêche à un ministre, tu es qui, de te déplacer pour aller voir les syndicats, pour aller voir les mécontents, calmer le jeu? Mais on crée des situations de telle sorte que les gens se radicalisent et finalement le désordre s'installe.
Donc, pour appuyer le président, c'est que généralement dans les commissions de conciliation, on envoie des gens comme les seconds couteaux, en fait des gens qui ne peuvent pas décider. C'est-à-dire qu'ils viennent juste pour écouter le partenaire, en fin de compte, c'est pour dire qu'on va rendre compte. Maintenant, c'est-à-dire que ça devient comme un cercle vicieux. Maintenant, si ça chauffe, c'est en ce moment que les ministres viennent avec tout, c'est-à-dire que tout le staff. Maintenant, les discussions sont sincères. Tout ce qui est dit là-bas, je crois que le partenaire se sent en confiance. Parce qu'à chaque fois que, c'est-à-dire qu'on envoie souvent des chargés de communication, souvent des chargés de mission. Mais non, mais c'est pas bon. C'est-à-dire, quand il y a un problème, je crois qu'il faut agir sur le problème et régler le problème immédiatement. Maintenant, il faut pas que, c'est-à-dire que ça s'inscrit, c'est-à-dire que dans la durée, afin que les gens, c'est-à-dire que, parce que si ça s'écrit dans la durée, maintenant les gens se radicalisent. Et si les positions se radicalisent, la gestion devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que l'année passée, il a fallu, c'est-à-dire que, amener sept ministres. C'est-à-dire qu'Ablaye Idrissa a pris cette décision. Sept ministres sont venus discuter avec les anciens. Alors qu'un seul ministre pouvait le régler et si on avait pris le problème à bras le corps dès le début. Voilà.
Et c'est dans ces conditions que le processus de révision constitutionnelle est lancé.
C'est là où ça devient très très dangereux. Si j'étais un ministre d'IBK, j'allais tout faire pour qu'on puisse anticiper qu'on n'entre pas dans ce processus de révision dans ces conditions-là. Ce n'est pas du tout bon.
Pensez-vous que le moment est inopportun, comme le pense l'Anfia Abad?
Je pense que le climat actuel est très très délétère pour qu'on parle de référendum constitutionnel. Parce que pour organiser un référendum constitutionnel, il faut une certaine stabilité. En son temps, Manansa Danyogo a parlé d'insécurité résiduelle. Après, elle s'est rendue compte que l'insécurité est réelle parce qu'il y a eu un couac au niveau de son domicile. Donc, elle s'est rétractée. Pour dire que pour organiser un référendum constitutionnel, il faut réunir tous les ingrédients. Ce référendum constitutionnel ne peut être organisé sans qu'il y ait la sécurité au nord, sans qu'il y ait la sécurité au centre, sans qu'il y ait l'aval de l'ensemble des forces vives de la nation. Quand je dis forces vives de la nation, il faut associer la classe politique, les leaders religieux, les recotrades, le Haut Conseil de la société civile. Donc il faut les associer tous, discuter, échanger pour voir comment on puisse vraiment tenir ce référendum constitutionnel à bon dent pour que personne ne soit frustré.
Un comité a été mis en place. Va-t-il réussir sa mission?
Bon, il y a des missions qui sont assignées au comité. L'objectif de ce comité, c'est ce n'est pas d'organiser les référendums. L'objectif du comité, c'est de mener la réflexion pour arriver, n'est-ce pas, à des réformes. Moi, je pense que le comité n'est pas là pour exécuter, à mon avis, l'organisation
c'est ça.
Non, bon, en tout cas, ils sont là.
Il y a déjà ils vont réussir la société civile qui regrette que les jeunes ne soient pas représentés dans ce comité.
De toute façon, moi, je pense qu'il faut croire en ceux qui sont choisis. On considère qu'on ne peut pas nommer tout le monde, on ne peut pas choisir tout le monde. Ceux qui sont pris, on peut leur faire confiance en estimant qu'ils vont réfléchir. Et maintenant, le travail de réflexion sera suivi naturellement de la pratique même de la mise en application du processus des réformes constitutionnelles. Ils sont là pour réfléchir, ils vont bien réfléchir. Mais moi, je crois que personne ne dit aujourd'hui qu'il n'est pas opportun. Bon, une révision constitutionnelle s'impose. Mais le contexte dans lequel nous sommes, un référendum exige avant tout un consensus national. Mais à partir du moment où une écrasante majorité de la population s'est reconnaissante dans les acteurs politiques, ne reconnaissent même pas la légitimité du président élu. Deuxièmement, un front social en ébullition. Troisièmement, l'insécurité grandissante, les fiascos électoraux de la présidentielle. Est-ce que toutes ces conditions actuelles permettent d'organiser un référendum? Voilà la grande question que moi je me pose. Parce que c'est avant tout la loi fondamentale du pays qui doit être changée.
D'accord. Paintao, une révision constitutionnelle s'impose, c'est ce que disent beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'elle est indispensable pour la stabilisation du pays en ce moment?
Bon, moi, c'est-à-dire que la stabilisation du pays et la révision constitutionnelle, pour moi, c'est vraiment ces deux choses qui n'ont rien à voir, hein, l'une avec l'autre. Parce que la stabilisation du pays, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté de ce que nous voulons que notre Mali soit, et qu'ensemble, c'est-à-dire que le gouvernement et tous les acteurs en présence, c'est-à-dire qu'acceptent de discuter, c'est-à-dire que et mettre beaucoup d'eau dans nos vins. Voilà.
Mais certains pensent que c'est l'accord pour la paix qui...
Non, en fait, bon, moi, je... Non, c'est-à-dire que c'est comme a dit le président, il est temps qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que l'accord...
Vous parlez de quel président?
Président...
D'accord.
Voilà, donc, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une révision constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut, c'est-à-dire qu'on est avec le front social, c'est-à-dire le gouvernement prend, c'est-à-dire un décret pour nommer, comme si, c'est-à-dire que faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. Parce que, c'est-à-dire qu'une révision constitutionnelle doit d'abord être inclusive. Tout le monde doit se sentir concerné là-dedans. Que c'est vraiment mon affaire, je vais en faire, voilà. Je vais m'investir à fond pour que ça aille mieux. Maintenant, si déjà, c'est-à-dire que des gens, c'est-à-dire que des personnes, et non des moindres sentent qu'ils sont exclus du processus. Maintenant, la finalité, c'est qu'on va faire, c'est-à-dire que face à une concertation, comme on a fait l'année passée, c'est-à-dire qu'Anté Abana, c'est comme ça, c'est clair. Mais ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire que la stabilisation du pays.
Déjà, pensez-vous que le processus va réussir ou va-t-il échouer?
D'accord. Mais si c'est pas inclusif, ça va échouer. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Mais si c'est pas inclusif dès le départ, ça va échouer.
Même si c'est inclusif, tant que la situation, la tension sociale règne, c'est ça encore plus grave.
Maintenant, les gens ont des revendications suspendues. Le gouvernement n'arrive pas à les satisfaire. Vous venez nous imposer
autre chose. Le MTM, ça ne va pas. Les enseignants, ça ne va pas. Il n'est pas exclu qu'il y ait un anti-Abana bis. 3, sans compter le fait qu'il n'y a pas de consensus autour de ça, je pense que ça mérite beaucoup, beaucoup de réflexion. Parce
d'accord.
Que tout est possible.
2 minutes, c'est ce qui nous reste. 30 secondes pour chaque invité pour réagir par rapport au décès du comédien Michel Sangaré. À vous d'abord, Boubacar Paintao.
Bon, réagir, je vais juste présenter mes condoléances à la famille.
Est-ce une perte pour le Mali?
Mais évidemment, c'est une perte pour le Mali. Parce que vu le rôle qu'il a joué avec Guimard National, c'est une énorme perte pour le Mali. vraiment, je présente mes condoléances les plus adressées à la famille de l'illustre disparu.
Les jeunes comédiens pourront-ils suivre leur exemple?
Je pense qu'ils en ont conscience à travers leurs témoignages qu'on a vus par-ci, par-là. Je voudrais aussi présenter mes excuses, toutes mes condoléances à la famille de Luz disparu. Surtout pour ses talents. Parce que récemment, il y a quelques mois, je suivais une scène. On a fait un sketch par rapport à l'argent. Michel nous a fait rire avec ça quand on était adolescent il y a un quart de siècle. C'est récemment que dans un pays voisin qu'on commence à faire rire avec les gens. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment très très doué.
D'accord. Il mérite notre... Des comédiens doués. Est-ce que le transfert de compétences a été une réussite quand on voit l'évolution de l'art, de la comédie au Mali?
Chacun est le fruit de son époque. Michel l'a vécu. Et ce qui est important, il faisait l'humour en fonction des réalités du moment, sans aller chercher dans les réalités extérieures. Donc c'était ancré dans la culture locale. Je pense que ce qu'il a fait doit pouvoir inspirer la jeunesse. Il a parlé sans avoir d'écart de langage, sans mettre de l'injure dedans, sans mettre des choses que nous voyons chez certains jeunes comédiens aujourd'hui qui n'ont absolument rien à voir avec nos valeurs sociétales.
D'accord.
Honnêtement, paix à son âme.
Michel Sanger a beaucoup apporté, d'abord paix à son âme, mais sincère condoléance, il a beaucoup apporté à la culture malienne. C'est un grand humaniste, c'est une perte pour l'humanité tout entière. Mais ce que je déplore, c'est qu'au Mali, souvent, on attend, quand tu es en phase terminale, on t'envoie en Tunisie. Maintenant, quand tu meurs, on te fait chevalier d'ordre national à titre positif. Donc, c'est ce que je déplore.
D'accord. Et merci à tous nos invités, Badou Escobar du Carrefour et Boubacar Païtaou du journal Aujourd'hui, Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou, Lanfia Sinaba de l'éveilinfo.net. Débat réalisé par Studio Tamani, mise en onde assurée par Gagné Kanté et à la régie vidéo Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine pour un prochain numéro du Forum de la Presse. Merci à tous.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.